Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Sarah Lecoeuvre et Damien Canivez.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro. Je suis accompagnée de Damien Canivez aujourd'hui. Bonjour Damien.
Salut Sarah.
Notre invité du jour est l'homme fort des soirées de LCI. Jusqu'à 6 heures de direct d'affilée sur la chaîne le week-end. On va en reparler. Il sort aujourd'hui un très beau livre qui nous a particulièrement touchés ici au Buzz TV. Darius Robin, bonjour.
Bonjour.
La guerre et la grâce, conversation inachevée avec Hélène Carrère-Danco. C'est le livre que vous publiez aux éditions Fayard. Alors comme son nom l'indique, ce livre est une succession d'échanges avec l'historienne et l'académicienne qui nous a quittés l'été dernier. Tout d'abord, comment ce livre est-il né ? Est-ce que quand vous la rencontriez, il y avait cette idée de format derrière la tête ?
Ça fait très longtemps que je côtoyais Hélène Carrère-Danco, que je l'interviewais pour la télévision, mais aussi on avait commencé à travailler. Et quand Fayard, quand Isabelle Saporta nous a proposé d'aller plus loin, l'idée est venue très vite. On n'a même pas signé de contrat, pour vous dire, et c'était un mois avant sa mort, qu'on a vraiment concrétisé les choses. Et Hélène, dans un style très Hélène, a dit « on travaille d'abord, on sera payé ensuite ».
Est-ce qu'elle a pu lire ces lignes avant de disparaître ?
Non. Elle est décédée. Ça a été vraiment une surprise pour tout le monde, y compris pour, peut-être pas pour sa famille la plus immédiate, mais pour la plupart des gens, ça a été une vraie surprise, hélas. Et donc, le projet a été interrompu, mais on le dit dans l'introduction, il n'a pas été assombri pour autant, parce qu'elle est tellement gaie, elle porte un tel optimisme sur sa vie propre et sur le monde, qu'il n'y a pas d'assombrissement.
Ouais, la chute est très belle, d'ailleurs. Ça donnera peut-être envie à nos téléspectateurs. Alors moi, je me demandais, comment vous avez connu Hélène Carrère-Danco ? Vous vous souvenez de la toute première rencontre ?
J'ai des souvenirs anciens, ça date de 25 ans. Et je me rappelle une conférence qu'on avait donnée au fin fond de la France, je ne vais pas dire un bled, parce que c'est jamais poli de dire un bled, mais et on s'était retrouvés dans un buffet de gare, vraiment crado. J'avais été frappé, parce que moi je suis d'origine assez modeste, mais quand même avec des goûts un peu bourgeois, confortables, et il y avait une sorte de steak de cheval un peu improbable, et moi je regardais ça avec distance, et elle, qui avait été vraiment pauvre, elle le raconte dans le livre, le monde où elle vivait à 4 dans 24 mètres carrés, ils n'avaient même pas un couteau pour la viande. Ouais. Et elle mangeait de bon cœur son steak, et là je me suis dit, elle a une expérience que je n'ai pas. C'était une toute petite partie, évidemment, de l'immense expérience humaine et intellectuelle qu'elle avait.
Ouais. Et la dernière rencontre, vous la racontez d'ailleurs.
Oui, la dernière, je la quitte, et puis j'arrivais jamais à trouver la minuterie dans l'escalier. Vous savez, elle habitait cet endroit incroyable, dans son appartement de fonction, le Palais Mazarin, donc qui est celui de l'Académie française. Et en sortant, je ne trouvais jamais la minuterie.
Pour
elle
la
m'a
lumière,
dit,
l'interrupteur.
Les derniers mots que j'ai entendus d'elle, c'est « faites attention, ne tombez pas dans le noir, c'est pas le moment ».
Ouais. C'est les derniers mots qu'elle a prononcés.
Et elle a dit, je me réjouis de la rentrée parce que c'est toujours, enfin elle disait toujours, c'est plus amusant de travailler que de s'amuser.
C'est très joli ça. On va poursuivre la conversation avec vous, Darius Robin. C'est passionnant, on a adoré ce livre. Juste après, les informations médias de Damien Canivez. On commence, Damien, ces infos avec le feuilleton qui nous passionne depuis le début de la semaine. L'altercation entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre.
Et oui, vous qui avez l'habitude de traiter les conflits sur LCI, cher Darius, on a hâte d'avoir votre regard sur cette guerre des tranchées qui oppose la comédienne à effectivement la chanteuse canadienne qui se déroule actuellement dans les coulisses de Danse avec les Stars. Alors on va rappeler brièvement les faits, bien évidemment, pour ceux qui seraient passés à côté de cette histoire. L'humoriste et la chanteuse canadienne se livrent donc à une véritable bataille médiatique à propos d'une altercation qui a éclaté lors des répétitions de ce concours de danse. Alors Inès Reg est allée voir Natacha Saint-Pierre et son danseur Anthony Collette pour leur demander de baisser le son de leur musique, ce à quoi ils ont répondu favorablement avec quelques blagues pour le bien de la séquence, puisqu'à ce moment-là, Inès Reg était accompagnée d'un cadreur, et on sait que généralement il faut être généreux lors de ce genre de séquence pour pouvoir alimenter un petit peu l'émission. Natacha Saint-Pierre a même lâché une insulte sur le ton de l'humour, selon sa version, et c'est là que le clash Inès Reg Natacha Saint-Pierre est né. L'une prend l'insulte au premier degré, l'autre martèle que c'était une plaisanterie. Inès Reg a menacé même la chanteuse qui a déposé une main courante. Anthony Collette a émis le même signalement. Bref, c'est une dispute qui, selon Le Parisien, inquiète même les plus hautes instances de TF1, figurez-vous, puisque Rodolphe Belmer, le PDG du groupe, aurait demandé à être informé des derniers rebondissements liés à cette affaire. Camille Combal, qui est l'animateur de Danse avec les Stars, quant à lui, réagi, c'était hier lors de son émission Camille et Images, en estimant qu'il était important que ce rendez-vous redevienne une émission de divertissement, ce qu'elle est à la base, et que cette affaire était définitivement terminée.
Damien l'a dit, Darius, vous avez l'habitude d'évoquer les conflits. Quelle sortie de crise on peut envisager là ? Est-ce qu'il faut envoyer les troupes au sol ?
Je pense que l'ONU, je pense qu'un appel à l'ONU...
Les casques bleus
Non, sérieusement, j'avoue que j'ai peu suivi, merci pour le rappel. Mais il n'y a pas de petite guerre, hein. Entre les toutes petites guerres et les grandes guerres, dans le livre avec Hélène, on parle beaucoup de l'Odyssée et de l'Iliade, et c'était des petites guerres souvent, de village à village, mais voilà, c'était déjà des grandes guerres par les conséquences.
Et puis on se rend compte qu'il y a des alliés aussi dans cette histoire, des danseurs qui soutiennent les uns, d'autres qui soutiennent les autres. C'est vrai que on peut faire des comparatifs assez clairs.
Moi, je vous avoue, on fait un journalisme, disons, qui est plutôt modéré, mais la dispute ne me fait pas peur. Je trouve que limer sa cervelle à celle d'autrui, comme dit Montaigne, est toujours une bonne chose. Alors, parfois, c'est plus ou moins bien maîtrisé, mais les plateaux où on s'engueule raisonnablement, il faut que ça aille en sens.
Ça
et
vous
en
arrive
but.
De hausser le ton ?
Oui, bien sûr. Enfin, hausser le ton, pas tellement, mais ça arrive que sur le plateau, par exemple, le débat entre Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit, parfois ça peut être vif.
C'était très tendu. Voilà. Hein. Il vous a dit, vous me cassez les pieds, tout simplement. Pour la première fois, je vous avais jamais vu comme ça, Darius. Vous avez dit, non, mais on va quand même recentrer le débat.
Voilà, mais toujours avec un calme olympien, malgré tout. Hein.
Oui, moi, je ne suis pas coq de nature. Au contraire, je trouve que ça, c'est intéressant quand il y a une tension, si évidemment il y a un sens intellectuel à l'attention.
Mais vous vous êtes rappelé après cette altercation avec
Oui, on se parle sans arrêt, bien sûr.
Et qu'est-ce qui s'était passé ? Il n'y avait pas de dents contre vous ?
Non, d'ailleurs, pas du tout. D'ailleurs, la dernière émission s'est très très bien passée. Il n'y a pas de...
Il est revenu.
Enfin, il est revenu, ou moi je suis revenu. Il n'y a pas de... Vraiment, alors moi je trouve que plus il y a de vivacité, plus ça va vite, mais dans le bon sens du terme, y compris parfois dans la pique, mieux c'est.
Damien, on poursuit ces infos médias avec l'audition de Yann Barthès.
Oui, l'animateur-producteur de Quotidien sur TMC était auditionné ce matin à l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission d'enquête sur les fréquences de la TNT. Alors, c'est cette même commission qui a déjà reçu les dirigeants du groupe Canal, comme Gérald Brice-Viret, Vincent Bolloré, Cyril Hanouna aussi, qui est allé, Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions, et plein d'autres dirigeants du petit écran. Alors, comme l'annonçait le président de la commission, Quentin Bataillon, qui était à votre place hier sur ce plateau, il a rappelé que le pluralisme était l'affaire de tous. Et bien Julien Belvert, journaliste dans Quotidien sur TMC, avait assumé sur Sud Radio le fait que le Rassemblement National n'était pas invité dans son talk show, et car je le cite, c'est une chaîne privée et on fait ce qu'on veut. Alors forcément, il était attendu au tournant par les députés du Rassemblement National qui composent cette commission d'enquête. Laurent Bon, lui, le producteur de l'émission, était aussi auditionné ce matin. Il s'en est défendu de ce choix en indiquant que les équipes ont subi de nombreuses violences sur le terrain par le passé. Je le cite, on n'a pas diabolisé le Rassemblement National. Alors il a aussi précisé qu'il respectait les règles liées à l'ARCOM en diffusant des magnétos qui permettaient aussi de garantir ce pluralisme lié à la parole politique.
Darius, vous suivez ces auditions à l'Assemblée nationale ?
Oui, c'est pas l'expression idoine, mais ce sont de bons moments de télévision. D'ailleurs, je trouve que dans l'accusation et dans la défense, si j'ose dire, il y a eu des moments très forts.
Oui, c'était passionnant, c'est vrai. Et d'ailleurs, cette commission, c'est aussi le moment de débattre aussi du pluralisme politique à la télévision.
Et d'ailleurs, la vie parlementaire, la vie démocratique, quand elle est comme ça, piquante, mais avec la profondeur, c'est très très intéressant. Cela dit, moi, je crois beaucoup à la pluralité. Je me rappelle, je suis assez vieux pour me rappeler l'époque où votre maison, le Figaro, appartenait à R100, et dans les années 80, et il y avait ces batailles avec le Figaro plutôt de droite, l'Humanité ou Libé à gauche, etc. Et cette pluralité-là, elle était plutôt saine. Moi, j'ai pas peur, il faut pas avoir peur de la pluralité.
Il faut à la fois que Quotidien existe et Pascal Pro de l'autre côté.
Vous avez regardé les débats en Suisse aussi, à la télévision suisse, est-ce qu'il existe aussi un clivage entre des chaînes de droite, des chaînes de gauche ?
Non, mais il y a du partout, bien sûr, il y a des journalistes de sensibilité plutôt de droite, plutôt de gauche. Moi, je suis toujours pour aller très loin dans la discussion, en tout cas dans le travail journalistique, y compris avec des gens très éloignés. Je donne toujours cet exemple parce qu'il touche ma famille d'origine, celle de mon père qui est iranienne. Ouais. J'ai pas mal de cousins lointains qui ont été pendus en Iran. Ça ne m'empêche pas d'avoir interviewé pas mal de responsables iraniens. Alors, comme on interviewe le responsable d'une dictature, c'est pas la même chose que quand vous interviewez le responsable d'une démocratie, mais c'est pas pour autant qu'il faut se l'interdire.
Damien, on termine ces infos avec le chiffre du jour, 983 000, c'est précis.
C'est très précis, c'est le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant la pièce de théâtre d'Éric-Emmanuel Schmitt intitulée Bungalow 21. C'était diffusé en première partie de soirée sur France 2, sur une idée de Benjamin Castaldi, qui était aussi à votre place sur ce plateau, ça c'était avant-hier. Cela représente 2,7% de part d'audience, c'est pas énorme, hein, attention. C'était assez faible, effectivement, 983 000 téléspectateurs. La concurrence était forte aussi hier, il faut dire que TF1 retransmettait en direct la le match de l'équipe de France face au Chili, et ils étaient près de 5 millions de supporters à applaudir la victoire des Bleus. 3-2, c'était assez laborieux quand même, ouais. Mais les Français ont gagné.
Darius, vous êtes plutôt théâtre ou foot? J'ai l'impression que les sujets sport, c'est pas votre tasse de thé.
Non, je suis nul en sport.
Ah oui, c'est voilà, ça.
Nul
c'est...
en 3.
Ah oui, c'est vrai.
Ça simplifie.
Vous connaissez que Zinedine Zidane.
Mais les sportifs sont très intéressants à interviewer, et contrairement ouais. au lieu commun, ils sont très structurés. Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires d'interviews, par exemple, avec Mbappé, ouais. ou évidemment avec Federer, mais beaucoup d'autres, vraiment, qui sont... parce que c'est aussi un art très intellectuel, ouais. le sport, le rapport de force du sport, c'est toujours intéressant.
Darius Rejman, vous sortez La guerre et la grâce, et aux éditions Fayard, votre conversation inachevée avec Hélène Carrère-Dancos, inachevée puisqu'elle s'est éteinte l'été dernier, alors que vous deviez poursuivre, j'imagine, vos échanges. Elle y raconte ses débuts d'enfant apatride, fille de parents exilés qui ont fui la Russie, une enfance dans la pauvreté, vous l'avez dit en préambule, il vivait dans 24 mètres carrés, pas de place pour les chaises, on ne mange pas de viande non plus, sa mère, ça c'est très drôle, dit qu'ils habitent dans du Louis XV et pas du Louis XV, ça m'a fait rire cette formule. Alors comme vous dites, c'est une leçon de vie, cette femme, en quoi l'est-elle? Comment elle s'est émancipée de cette...
Leçon de culture, oui. Ça montre qu'on peut être d'origine sociale extrêmement modeste, si on a la culture pour soi, on a une arme pour la vie. Et chez elle, alors c'était superlativement vrai, puisque sa mère venait de ces familles russes blancs, exilés d'origine aristocratique, où on apprenait 5 langues, c'est-à-dire que c'était poussé au point où dans la famille, il y avait un jour pour le français, un jour pour l'anglais, un jour, etc. Alors il y avait une domesticité, hein, c'était un monde, c'était pas la grande égalité sociale, mais ça, c'était une formation évidemment que sa mère lui avait transmise. Avec cela, l'effort, un point inouï, quand elle va à la cérémonie, à la naturalisation, elle a appris par cœur la Marseillaise et la Constitution française en entier, in extenso, et elle est prête à le réciter, devant l'officier d'état civil qui lui dit « vous embêtez pas, signez là », et elle est très déçue.
Oui.
Alors dans ce livre, c'est vrai qu'il est beaucoup question de Russie, puisqu'elle est originaire de Russie, elle s'appelle Hélène Zourabichvili, hein, on le rappelle.
De Géorgie, en fait, voilà. La famille, elle est géorgienne et russe.
Absolument, alors elle pense que l'origine de la violence de ce pays, donc de la Russie, provient de sa dimension spectaculaire, il n'y a pas véritablement finalement de frontières établies, donc pas de limite d'expansion. Vous êtes d'accord avec ce point de vue?
Oui, il y a un moment que j'aime bien dans la conversation où on fait allusion à De Gaulle qui disait la France de Vauban, vous savez, vraiment avec ses frontières, ses forts, etc., c'est aussi beau que la perfection classique de Racine et de Corneille.
Ouais.
Alors que la Russie, c'est l'autre extrême. Elle a avancé, elle s'est rétractée, comme disait l'ancien opposant Václav Havel, tchécoslovaque, et ce mouvement, cette espèce de respiration, évidemment, très dangereuse pour les voisins.
Ouais.
À cela s'ajoute la tradition de violence, de sang, qu'elle décrit très bien, parce que le paradoxe d'Hélène Carrère-Dancos, c'est qu'elle est profondément pacifique, très civilisée, c'est la civilisation, mais sa fibre russe, avec une certaine violence, une certaine compréhension de la brutalité, elle existe quand même.
Ouais. Elle dit aussi que Poutine sous-estime les Ukrainiens et que jamais ils ne reviendront dans le giron moscovite. Est-ce que là, elle ne se trompe pas? Parce qu'ils sont très forts militairement, les Russes.
Elle s'est parfois trompée, et notamment, elle s'est trompée, il ne faut pas le cacher, sur le fait que Poutine a envahi l'Ukraine.
Ouais.
Elle n'y croyait pas. Elle n'était pas la seule à cette décharge. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas.
Donc, au sommet de l'État aussi.
Voilà. Et sans doute que c'est le moment où elle a paradoxalement sous-estimé ce qu'elle connaissait mieux que personne, parce que la violence russe, elle l'a très bien étudiée. Elle raconte que ça remonte à ses toutes premières études, elle s'intéresse à Lénine, et Lénine en 1912, c'est un moment juste avant la révolution bolchevique, où la Russie commence à se démocratiser, où, comme aujourd'hui la Russie sous Poutine, elle aurait pu suivre un chemin où elle se développe par le commerce, par l'économie, etc. Non, Lénine dit... C'est la violence, il nous faut de la violence, c'est la politique du pire qui nous servira. Une Russie heureuse mais qui déclinerait en pente douce, c'est pas ça qui est intéressant pour Poutine. C'est l'hypothèse selon laquelle le but de guerre de Poutine, c'est la guerre. C'est faire la guerre parce qu'il voit plus de possibilités dans la guerre que dans la paix.
Alors Hélène Carrère-Dancos, justement, ne voyait pas la Russie comme une menace. Hein. « Je me refuse à enfermer un peuple dans la fatalité », c'est ce qu'elle dit dans ce livre. Elle ne croyait pas à l'invasion russe en Ukraine et elle fait même amende honorable en disant qu'elle s'est trompée. Mais aujourd'hui, elle dirait quoi, à votre avis, là, maintenant,
Il ne faut jamais faire parler quelqu'un qui n'est plus là, mais en tout cas, elle faisait partie de cette généalogie très française qui pense qu'il faut coexister avec la Russie, ça c'est sûr. Depuis De Gaulle, c'est celui qui, elle le raconte superbement, c'est celui qui veut qu'il y ait des combattants, c'est le régiment Normandie-Niémen, c'est les seuls occidentaux qui sont battus avec les troupes de Staline.
Ouais.
Donc, De Gaulle et l'Atlantique à l'Oural, Mitterrand et la Maison maison commune, Chirac très ami de Vladimir Poutine, Giscard assez indulgent quand les soviétiques envahissent l'Afghanistan, etc. Elle était quand même de cette tradition un peu légitimiste, réalpolitique. Mais ça ne l'empêchait pas de dire qu'il faut être dur avec les Russes. Ouais. Et elle donnait l'exemple, le contre-exemple qui était Obama. Elle disait Obama a été lâche avec les Russes.
Catastrophique.
Elle disait catastrophique parce qu'il a été insultant en parole, certes. Il disait c'est un petit pays, PIB, etc. Mais il a été lâche dans les faits puisqu'il a lâché les Français quand il voulait frapper Bachar el-Assad, l'allié de Poutine.
Ouais, donc si je vous comprends bien, elle aurait approuvé le discours d'Emmanuel Macron début mars.
Je crois, d'ailleurs.
Qui a appelé les Européens à ne pas être faibles.
Elle est flatteuse pour Emmanuel Macron. Elle pense que Macron a bien joué. Et déjà au moment en 2017, quand il accueille Poutine à Versailles, et qu'il y a un petit côté rapport de force. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image, elle est assez forte parce qu'il y a Macron et Poutine côte à côte. Et avec un certain culot, Emmanuel Macron rappelle que pendant la campagne électorale, les cyberattaques de Poutine l'ont attaqué lui.
Bien sûr.
Et on voit la tête déjà de Vladimir Poutine qui se décompose un peu. Elle approuve ça.
Absolument. Quelle question vous poseriez aujourd'hui à Vladimir Poutine? Si vous l'aviez en face de vous, vous l'avez déjà interviewé par le passé, s'il était là face à vous, qu'est-ce que vous lui demanderiez?
Bon, ça tournerait autour de son but. Qu'est-ce qu'il espère? C'est-à-dire, est-ce qu'il espère reconquérir une sorte d'empire russe, mais sans toucher à l'OTAN, ou est-ce qu'il rêve à une recomposition beaucoup plus grande dans un monde où, pourquoi pas maintenant, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, par exemple, l'OTAN se déstructurerait?
Et sommes-nous au bord de la Troisième Guerre mondiale, selon vous, Darius Rebin? C'est une question que doivent se poser
des
millions de téléspectateurs.
Il ne faut jamais jouer à Madame Soleil, mais il est certain qu'il y a, il y a un moment très dangereux. Et ce moment très dangereux est lié au fait, et ça apparaît dans la conversation avec Hélène, au fait que la puissance européenne, en réalité, est plutôt une exception. Nous sommes entourés de puissances pour qui la guerre d'agression est une possibilité. Il ne faut jamais oublier que les États-Unis l'ont fait, la guerre d'Irak en 2003, alors c'est une démocratie, mais ils l'ont fait. Oui. La Chine, peut-être demain ou après-demain, le fera à Taïwan, guerre d'agression, alors que pour nous, Européens, c'est un tabou absolu. Ce qu'on appelle pudiquement la guerre préventive, on n'imagine pas que ce soit possible. C'est nous, en fait, qui sommes l'exception dans le monde, et évidemment, c'est toujours dangereux d'être... C'est notre grandeur. Ouais. C'est notre grandeur, ça peut être aussi notre faiblesse.
Et quel rôle la France doit-elle jouer dans ce conflit, selon vous? Est-ce que, selon vous, au cours des prochains mois, il faudra envoyer encore plus d'armes à l'Ukraine, ou bien est-ce qu'il faudra aussi envoyer des troupes au sol, comme ça a été un temps évoqué?
Ce qui est sûr, c'est que le rapport de force fonctionne avec la Russie. Ouais. Les Russes vous estiment... Moi, j'ai pas mal voyagé en Russie, d'ailleurs. Là, c'est le seul, vraiment... Je suis un tout petit journaliste par rapport à Hélène, qui avait une connaissance de la Russie encyclopédique, mais le seul domaine où j'avais un peu plus d'expérience qu'elle, c'est récente, puisque j'ai beaucoup interviewé les officiels russes actuels.
Bien sûr.
Les chefs du renseignement russe, etc. Et même humainement en Russie, vous savez, vous avez des rapports humains assez frappants. En France, si vous souriez à quelqu'un dans la rue, généralement, il vous rend votre sourire assez poliment. En Russie, pas tellement. On ne comprend pas très bien pourquoi. Il y a une espèce de culte du rapport de force qui fait qu'on est respecté si on est fort. Ouais, et en cela, certainement que la position de la France sera tôt ou tard payante.
Et alors, une semaine seulement après sa réélection, Vladimir Poutine doit gérer une crise majeure avec l'attentat de Moscou qui a fait 137 morts et des centaines de blessés vendredi soir dernier. On parle même du Bataclan russe. Alors, c'est un acte qui est revendiqué par l'État islamique, mais Poutine croit plutôt à une attaque des Ukrainiens. Vous qui l'avez interviewé et qui l'observez beaucoup, vous pensez qu'il pense vraiment à cette théorie ou c'est juste un prétexte pour renforcer les frappes sur l'Ukraine ?
En général, ce régime qui est très marqué par la police politique, c'est sa maison d'origine, c'est comme ça qu'il réfléchit, pense toujours en termes de destination très précise. Il y a une forme de complotisme du FSB, des services russes depuis toujours. Ils ont moi je les ai beaucoup interviewés, ils ont cette expression, par exemple, quand ils parlent de quelqu'un, ils disent « on a son dossier ». Il y a une manière de dire « on sait », c'est aussi une expression à eux, « on sait d'où il vient et on sait où il va ». Ce qui est une vision très déterministe du monde, alors que le monde est plus compliqué que cela. Ouais. Et ça les affaiblit en même temps, parce qu'au lieu de comprendre, disons, la richesse du monde occidental qui fait qu'on sait que l'économie libérale ouvre les possibles, eux ont une vision très complotiste du monde. Et aussi, ils veulent absolument donner une version même contre la vérité évidente.
Alors, c'est vrai que, on le rappelle aussi, vous êtes sur LCI, bien évidemment, présentateur du 20h de Darius Rochebain, et le dimanche, dans une tranche XXL, il faut dire, entre 18h et minuit, ça fait une dizaine d'heures d'antenne quand même, en seulement 3 jours, si on calcule bien. Comment vous faites pour tenir?
Bon, la matière est passionnante, le hasard fait que ce sont des sujets, j'ai beaucoup voyagé dans ces pays avant, donc c'est des sujets que... que je connais bien, évidemment souvent beaucoup moins bien que nos invités, mais oui, la passion fait que c'est, on est porté.
Vous avez une hygiène de vie irréprochable aussi. Vous dormez bien la semaine.
Il faut dormir, c'est la règle. Et puis souvent, c'est là. Quand un entretien, par exemple, est passionnant, ouais. Vous n'êtes jamais fatigué.
Alors hier, nous recevions, on l'a dit, Quentin Bataillon, président de la commission d'enquête parlementaire sur le pluralisme dans les médias. Il avait une question à vous poser, Darius. Je vous propose de regarder et d'y répondre, évidemment, après.
Darius Rejmain, bonjour. Déjà vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour votre travail. Vous avez interviewé, je pense, les plus grandes personnalités nationales et internationales avec, on va dire, ce journalisme, avec cette classe à la française dans la façon de poser les questions. On se rappelle notamment de Robert Badinter récemment. Une question assez simple, finalement anecdotique. Quelle est la rencontre qui vous a, nationale comme internationale, le plus marqué et fait évoluer votre regard sur le monde et tout ce qui peut nous entourer ?
Une vaste question.
Robert Badinter, effectivement, je crois avoir été le dernier ou un des derniers à l'interviewer. Ouais. C'était à la fin de décembre, donc très peu avant sa mort. Et peut-être que c'était le personnage le plus impressionnant parce qu'il était évidemment la statue du commandeur que l'on sait et en même temps avec un humour très dévastateur.
Ah ouais.
Et je publierai d'ailleurs à la fois les vidéos et les textes. Certains sont parfois un peu vifs parce que c'est quelqu'un qui avait effectivement un humour dévastateur. Il disait toujours avec Mitterrand, ce qui les unissait, c'est qu'il riait beaucoup. Ah ouais. Et je trouve toujours que c'est un très bon signe. L'humour est quand même l'indice principal de l'intelligence.
Et qui vous rêvez d'interviewer aujourd'hui ? S'il fallait, si vous aviez le choix.
Le mieux, c'est quand c'est à la fois un coût, parce qu'évidemment, dans notre métier, les coûts sont importants, et quand il y a un contenu. Trump, par exemple, évidemment, Trump serait quelqu'un de passionnant à interviewer maintenant, parce qu'il y a à la fois le coût, oui, ce serait un coût journalistique, et un contenu, c'est-à-dire quelle relation il imagine avec l'Europe, est-ce qu'il veut protéger l'Europe comme une certaine tradition américaine le veut, ou se retirer un peu comme une autre tradition américaine le veut. Il faut toujours se rappeler, souvent dans nos plateaux, on le rappelle, les Américains sont entrés en guerre en 1941, donc tard. Alors, les Soviétiques, c'est pire d'une certaine manière, puisqu'il y avait le pacte germano-soviétique avant, mais chacun pense d'abord à ses intérêts.
Quand vous parlez de Donald Trump, vous employez le conditionnel, mais est-ce que vous avez concrètement lancé l'interview ou bien ça relève du domaine du rêve ? Je vous pose cette question parce que vous avez un palmarès d'intervieweur où on a l'impression que l'impossible n'existe pas. Vous avez quand même interviewé Vladimir Poutine, je ne vais pas citer tous les dirigeants que vous avez interviewés, mais récemment Medvedev aussi, que vous avez eu, l'ancien président russe. On se dit que finalement, Donald Trump, c'est à votre portée.
Non. Bon, d'abord, les Américains sont durs en affaires parce que, et là, on voit vraiment la logique économique qui est plus forte que la nôtre. Ils regardent vraiment l'exactitude des chiffres. Ils disent, ils y vont pas au charme. Et d'ailleurs, c'est très impressionnant, les comédiens américains, ils sont charmants avec vous, mais vraiment, les 7 minutes de l'interview, et à la seconde où c'est fini, c'est fini. Vous dit vraiment, c'est fini. Alors que dans beaucoup d'autres cultures, si on peut continuer un petit peu.
Chez
les Latins, ça va. Mais après, il ne faut jamais livrer ses secrets de fabrication. Mais évidemment,
parce que vous en avez des secrets de fabrication.
On lance des pistes, il faut lancer des pistes. Et puis après, c'est les hasards. Parfois, c'est un ami d'amis qui vous amène à quelqu'un.
C'est le réseau qui est le secret, en vrai.
Oui, il y a le réseau. Mais parfois aussi, c'est la voie la plus officielle et la plus simple qui fait que ça marche. Donc, il n'y a pas de règle.
Donald Trump, vous n'avez jamais croisé sa route ? Non.
Si, bien sûr, j'avais rencontré au Forum de Davos.
Ah, d'accord.
Et il est très impressionnant.
Physiquement.
Je ne prononce pas du point de vue politique, mais il fait partie de ces gens comme ça. Ils sont assez rares. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur positif ou négatif. Nicolas Sarkozy, il y a ça aussi en France, qui ont une espèce de densité physique qui fait qu'il y a tout de suite un rapport de force qui s'instaure dans la conversation.
Darius Rejmain, on vous garde quelques instants pour notre dernière rubrique au suivant. Ce jeudi, nous recevrons le journaliste Augustin Trapenard qui présente La Grande Librairie sur France 5. Alors, je vais vous poser la même question que vous avez posée à Hélène Carrère dans Cause, dans le livre. C'est la première, il me semble. Quelle a été votre première lecture ?
Je lisais Le Club des Cinq.
Ah.
Voilà, mais ça, c'est vraiment une lecture d'enfant. Vous lisiez ça ?
Ah, oui, je
bien
lisais,
sûr, on a ce point commun, Darius.
Voilà, je me rappelle vaguement, il y avait Claude, Annie, François,
c'est ça.
Et puis le
chien, Dagobert. Et puis ensuite, Anatole France, qui n'est pas un auteur très connu, mais qui est un auteur que j'aime beaucoup, parce que c'est un vrai démocrate, modéré, mais pas pour autant désabusé. Vraiment, je recommande Anatole France. Et puis après, Les philosophes des Lumières, j'ai beaucoup aimé Voltaire. D'ailleurs, Hélène Carré-Dancausse le cite beaucoup. Et puis Chateaubriand, qui est pour moi le plus grand auteur.
Et aujourd'hui, votre livre de chevet, c'est quoi ?
Beaucoup Chateaubriand, beaucoup Saint-Simon.
Beaucoup, oui.
Combien de livres par semaine ?
Oh, vous savez, tous les journalistes, hélas, parcourent un peu, donc ils font semblant de lire un peu, mais j'essaye de lire. Vous savez, ces journalistes, c'est affreux, ceux qui regardent la dernière page et qui disent « Alors, Sarah, vous avez signé un livre, la canne... » Donc j'essaye de ne pas le faire et vraiment de lire.
Vous lisez tout ?
En tout cas, traverser principalement les livres.
Ouais. Et la question Jacques Chancel, et Dieu dans tout ça ?
Ben, dans la conversation avec Hélène, on parle de l'émotion qu'il y a quand on vous entrez dans une église, que vous soyez croyant ou pas, parce que ça existait déjà chez les Romains de l'Antiquité, la petite lampe rouge qui signale la présence du Dieu et qui procure quand même une certaine émotion.
Et une question aussi qu'on voulait vous poser, parce qu'il y a 2 ans de ça, lorsque vous étiez venu au Buzz TV, vous aviez dit que vous étiez prêt à acquérir la nationalité française. On est en 2024, ça en est où?
On
prend des nouvelles. Chaque fois que vous viendrez sur ce plateau, on vous posera la question.
Est-ce que vous voulez être naturalisé comme l'est Hélène Carrère?
Je pourrais d'ailleurs, je pourrais théoriquement, mais voilà. Pour l'instant, je n'ai rien demandé.
Non, vous restez suisse, votre cœur est en Suisse.
En réalité, je suis suisse et iranien, parce que la nationalité iranienne ne se perd jamais. Mais je n'avais pas très envie, surtout quand j'étais jeune, c'était la guerre Iran-Irak, donc si j'étais allé en Iran, j'aurais pu être pris sur le front, donc je n'étais pas pressé, si vous voulez, de me rendre en Iran.
Et vous faites toujours des allers-retours aussi?
Oui, bien sûr, j'ai deux filles, d'ailleurs, une de mes deux filles, quand on parle de ce que c'est que entrer dans une église, et même si on n'est pas forcément croyant soi-même, je me rappelle très bien un moment où je suis entré avec ma fille, elle a 14 ans maintenant, au moment d'une messe, et c'était le moment de l'élévation, c'est le moment où il y a la clochette, et où c'est la communion, et on en parle avec Hélène Carrère-Dancausse, c'est un des moments les plus bouleversants de ma vie, même si, je le dis, par métier, je suis un peu sceptique. Quand on est journaliste, on est sceptique.
Bien sûr, toujours, on doute.
À vous, Darius, de poser une question à Augustin Trapenard.
Augustin Trapenard, j'ai toujours été très impressionné, c'était une de vos précédentes émissions, je ne sais pas si c'était tourné chez vous, mais je crois, de votre bibliothèque. Vous avez une immense bibliothèque blanche, si je me souviens bien, en couverte, le mur couvert de livres. Je ne sais pas, est-ce que vous jetez des livres? Parce que je sais que c'est un tabou pour beaucoup de gens, et en même temps, quand vraiment il y a un livre qui ne vous intéresse pas, qu'est-ce que vous faites des livres que vous ne lisez pas? Voilà.
Très bonne question. On posera demain à Augustin Trapenard. Merci Darius Rochebain.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Je rappelle le nom de votre livre, La guerre et la grâce, conversation inachevée avec Hélène Carrère-Dancausse. Et puis on vous retrouve bien sûr sur LCI dès le vendredi soir jusqu'à dimanche.